Bienvenue, aujourd'hui on se plonge dans les fondamentaux du magnétisme, en s'inspirant de principes du magnétisme et matériaux. On va essayer de décortiquer ensemble le champ magnétique, comment il est créé, comment il interagit avec la matière. L'objectif, c'est de vraiment saisir l'essentiel, que ce soit dans le vide ou dans différents matériaux. Alors, on commence par quoi? Les bases, j'imagine.
Le champ lui-même, son flux aussi en Weber, c'est ça?
C'est ça, le flux magnétique en Webers. Et puis, il y a deux piliers théoriques absolument essentiels.
Ah oui, les fameux théorèmes.
Exactement. Le théorème de Gauss pour le magnétisme et le théorème d'Ampère.
Le théorème de Gauss, il nous dit quelque chose d'assez spécifique sur les lignes de champ, n'est-ce pas?
Absolument. Ce que Gauss nous dit pour le magnétisme, en gros, c'est que si on prend n'importe quelle surface fermée, eh bien, le flux magnétique total qui la traverse est toujours zéro. Nul.
Toujours nul.
Toujours. Pensez-y. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge magnétique isolée comme on a des charges plus et moins en électricité. Pas de monopôle magnétique.
Ah d'accord, donc les lignes de champ, elles ne partent pas d'un point pour arriver à un autre.
Voilà. Elles se bouclent toujours sur elles-mêmes. Elles n'ont ni début ni fin identifiable. C'est une différence vraiment fondamentale avec le champ électrique.
Intéressant. Pas de source ou de puits magnétique, donc. Toujours des boucles. Et Ampère alors ?
Lui, il fait le lien avec les courants électriques. Exactement. Le théorème d'Ampère, lui, il quantifie la relation entre la circulation du champ magnétique le long d'une boucle fermée, un chemin imaginaire qu'on dessine, et le courant électrique total qui passe à travers la surface définie par cette boucle.
Le courant enlacé, c'est ça?
C'est ça. Le courant dit concaténata dans le texte original, ou enlacé, oui. C'est cette loi qui est super utile pour calculer le champ, par exemple, autour d'un long fil conducteur rectiligne ou à l'intérieur d'un solénoïde.
C'est quand même fascinant qu'une équation mathématique nous permette de prédire ça. Le champ généré par un simple courant. Et ces champs magnétiques, évidemment, ils exercent des forces.
Bien sûr.
On pense tout de suite aux moteurs électriques, j'imagine.
Tout à fait. C'est l'application directe. Une boucle de courant, imaginez une petite bobine placée dans un champ magnétique uniforme, elle va subir un couple. Une force qui tend à la faire tourner, à l'orienter.
Et ce couple, il dépend de quoi?
Il dépend de l'intensité du courant, bien sûr, de la surface de la boucle, de l'intensité du champ magnétique ambiant. Tout ça est résumé dans ce qu'on appelle le moment magnétique de la boucle.
Et c'est ça la base du moteur électrique?
C'est le principe même. D'ailleurs, c'est pas seulement les gros moteurs. Pensez aux anciens ampèremètres ou voltmètres à aiguille.
Ah oui. Ils fonctionnent aussi sur ce principe. Un champ magnétique fait dévier une petite bobine mobile et l'aiguille bouge. C'est une exploitation très fine de ces forces.
On voit bien les applications macroscopiques. Mais si on zoome à l'intérieur de la matière elle-même. D'où viennent les propriétés magnétiques des différents matériaux?
Alors là, on change d'échelle. Il faut regarder au niveau microscopique, au niveau des atomes.
Les électrons qui bougent.
Exactement. Les électrons qui tournent sur eux-mêmes et autour du noyau, ça crée comme des minuscules boucles de courant. Chaque atome peut donc avoir son propre petit moment magnétique.
D'accord.
Et c'est la façon dont tous ces petits moments magnétiques atomiques interagissent entre eux, et avec un champ magnétique extérieur qu'on appliquerait, qui va déterminer si un matériau est diamagnétique, paramagnétique ou ferromagnétique. C'est ça. Quelles sont les grandes différences?
Alors, très brièvement, les matériaux diamagnétiques, ils réagissent très faiblement en créant une aimantation opposée au champ extérieur. Ils sont, en quelque sorte, très légèrement repoussés. Les paramagnétiques, eux, créent une faible aimantation dans le même sens que le champ. Ils sont donc très légèrement attirés. Tout ça est lié à la perméabilité magnétique relative du matériau, sa capacité à laisser passer les lignes de champ.
Mais c'est faible dans les deux cas.
Très faible, oui. Mais alors, les ferromagnétiques, là c'est une autre histoire.
Ah, les ferromagnétiques. Le fer, le nickel, c'est là qu'on entend parler de cycles d'hystérésis, de saturation. Ça a l'air plus complexe.
Oui, c'est plus complexe et beaucoup plus vacances. Dans ces matériaux, il y a un phénomène collectif. Les moments magnétiques des atomes voisins ont tendance à s'aligner spontanément dans des régions qu'on appelle les domaines de Weiss.
Et des domaines de Weiss, ok.
Oui, des sortes de petites zones à l'échelle microscopique où tous les moments magnétiques pointent dans la même direction. Au départ, ces domaines sont orientés un peu au hasard, donc le matériau global n'est pas forcément aimanté.
D'accord.
Mais si on applique un champ magnétique extérieur, même faible, les parois de ces domaines bougent, ceux qui sont alignés avec le champ grossissent au détriment des autres. Et si le champ est assez fort, les moments magnétiques à l'intérieur des domaines peuvent même pivoter pour s'aligner complètement. C'est ça qui donne une aimantation très très forte.
Et l'hystérésis, c'est quoi exactement dans ce contexte?
L'hystérésis, c'est, comment dire, c'est la mémoire magnétique du matériau. Ça décrit le fait que l'aimantation actuelle ne dépend pas juste du champ appliqué maintenant, mais aussi de ce qu'il a subi avant.
Une sorte d'inertie?
On peut voir ça comme ça. Si on augmente le champ, l'aimantation augmente. Mais si on diminue le champ ensuite, l'aimantation ne redescend pas par le même chemin. Même quand on annule le champ extérieur, il peut rester une aimantation rémanente.
Ah, c'est pour ça qu'on peut faire des aimants permanents?
Exactement. C'est grâce à ce cycle d'hystérésis, on aimante fortement le matériau, on coupe le champ et il reste aimanté. La saturation, c'est quand on applique un champ tellement fort que pratiquement tous les domaines sont alignés au maximum. On ne peut plus aimanter davantage. Des gens comme Pierre Weiss et Pierre Curie ont été essentiels pour comprendre tout ça. Passionnant. Donc si on récapitule rapidement, on a ces lois fondamentales. Gauss qui dit pas de monopole, que des boucles. Ampère qui lie champ et courant. C'est ça.
Ensuite, on a vu comment ces champs créent des forces. Le moment magnétique, qui est la base des moteurs, des instruments.
Oui. Et finalement, la richesse des réponses magnétiques de la matière est incroyable. Le faible diamagnétisme et paramagnétisme, et surtout le ferromagnétisme, bien plus fort et complexe, avec ses domaines de Weiss et ce fameux cycle d'hystérésis si crucial pour les aimants. Voilà, c'est une bonne synthèse des points clés. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion.
Oui, quand on voit comment ces principes s'appliquent à toutes les échelles, des lois fondamentales jusqu'au comportement très spécifique des matériaux, on peut se demander comment est-ce que notre compréhension toujours plus fine du magnétisme continue de nourrir l'innovation technologique. Dans quel domaine, par exemple?
Partout. Dans le stockage de données, où on cherche des densités toujours plus grandes, dans l'imagerie médicale, comme l'IRM, ou même dans les transports du futur, avec la lévitation magnétique. Clairement, le magnétisme a encore beaucoup à nous offrir.